Nelly Kars et Bruno Lambert racontent et écoutent le Verdon.
Naturaliste, écologiste, aventurier et cinéaste, Nelly Kars et Bruno Lambert présentent leur dernier documentaire produit par Octopus Productions, « Il était un Verdon ». Si le Verdon pouvait parler, que dirait-il de notre humanité ? Découvrir le Verdon dans son ensemble, du col d'Alos à la confluence avec la Durance, c'est ce que propose ce documentaire. Il a fallu 2 ans de travail à Nelly et Bruno pour la réalisation de ce film qu'il dédie à tous les acteurs officiels et anonymes de la sauvegarde de la nature et de l'homme. Bruno Lambert et Nelly Kars au micro d'Odile Frison.
Bruno Lambert, Il était un Verdon, une nouvelle production d'Octopus.
Oui, en fait, il y a 3 ans, on se souvient de la Dame des Lacs. La Dame des Lacs, c'était donc la traversée de toutes les grandes retenues de la région PACA qui a été faite à la nage par Nelly Kars. L'objectif était à l'époque d'attirer l'attention de l'opinion sur l'eau, d'où la naissance d'un vaste projet qu'on a appelé Water Stories. Dans cette même logique, alors avec Octopus Productions en partenariat avec les Marcheurs de la Terre, donc depuis 2 ans, on travaillait sur « Il était un Verdon ». C'est un documentaire qui vient d'être finalisé, un documentaire de 52 minutes, qui a pas mal de singularités. Déjà, c'est le premier véritable documentaire sur le Verdon, contrairement à ce qu'on s'imagine. Beaucoup de reportages passent à la télévision. Alors les reportages, ça relate une actualité, c'est censé relater une actualité, même les grands reportages, à l'inverse d'un documentaire de création qui, lui, a un parti pris d'auteur. Première singularité. Deuxième, c'est qu'on a travaillé sur l'ensemble du Verdon, c'est-à-dire l'ensemble de son bassin versant, donc de ses sources, au lac d'Alos, au-dessus de la Foute d'Alos, jusqu'à sa confluence avec la Durance au niveau de Vinon du Verdon. Donc ça, c'était sa deuxième singularité, parce que généralement, les reportages comme les petits films focalisent sur les grandes gorges du Verdon. Or, le Verdon, c'est pas que les grandes gorges. Les grandes gorges, c'est 30 km, on va dire, au sens large, alors que le Verdon, dans toute sa longueur, lui, fait 170 km à peu près. Troisième particularité de ce film, et pas la moindre, c'est qu'on a pris parti de faire parler le Verdon à la première personne. C'est-à-dire que le Verdon, la rivière, la nature en général, va plaider sa propre cause et s'adresse donc aux humains à la première personne. En complément, bien sûr, de tous les protagonistes interviewés, donc les gens du parc régional du Verdon, les gens de la Maison de l'eau, EDF, etc. Donc il y a quand même, je crois qu'il y a 10 d'intervenants sur le sujet, plus la voix off d'un narrateur, homme, Philippe Murgier, pour l'occasion, pour ceux qui s'intéressent au documentaire, qui, lui, joue le rôle du Verdon. Et pour conclure au niveau, je dirais, de sa quatrième singularité, c'est qu'on a tenté, à travers ce documentaire, de relativiser, je dirais, l'invasion touristique. Généralement, les docus ou les reportages forcent un petit peu sur le côté exotique du Verdon et attirent énormément de monde. Le problème étant, c'est que localement, et les collectivités ne peuvent plus faire face. C'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre que le Verdon est essentiellement bordé par des petites communes rurales qui n'ont pas toujours les capacités financières pour accueillir ces touristes-là. Donc il faut maintenant prendre en compte le fait que le Verdon, sur ses 170 km linéaires et essentiellement sur ses 30 km de gorge, n'a plus la capacité d'absorber le gros flux touristique estival. Donc les collectivités locales en sont très conscientes. Le parc régional naturel du Verdon essaye de trouver un bon point d'équilibre entre le développement touristique et la préservation des sites, patrimoine naturel et culturel. Et le documentaire est vraiment axé là-dessus. Donc c'est le Verdon nature, le Verdon patrimoine environnemental à découvrir, mais sur la pointe des pieds, quoi. C'est très très important parce qu'à terme d'une décennie, alors ça n'engage que moi, ce territoire sera payant à de nombreux endroits, c'est-à-dire sur les gorges, entrées et sorties des gorges, les cascades de Saint-Morin, voire même à la limite le lac de Sainte-Croix, comme on peut le voir ailleurs dans le monde avec le Colorado ou les treks népalais, etc., etc. Il y a trop de monde. Si on prend l'exemple du sentier Blanc-Martel, qui est un sentier quasiment mondialement connu, hein, à l'instar du canyon, il faut considérer que cet itinéraire fait 16 km, donc descend au fond des gorges, longe les gorges et remonte à flanc, quoi. C'est quand même 16 km de sentier étroit, exposé, vertigineux, très 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 chaud l'été, équipé de mains courantes, d'échelles métalliques. Alors les gens du département connaissent, hein, mais ailleurs, très souvent on ne s'en rend pas compte. Et en gros, ce sentier attire une foule de touristes qui n'est pas particulièrement prévenue et qui n'a pas la capacité donc de faire ce genre de balade. C'est-à-dire, pour reprendre les propos de quelqu'un du parc, ce sont des gens qui vont passer d'une activité ludique, nautique, en tongs et en short, à l'activité réellement montagne, 15 km plus haut. Ça, déjà, il y a un gros problème, quoi. Et on le sait, c'est très relaté dans le reportage. Mais il y a également un deuxième problème de maintien et de gestion des sites, parce que ben, tout ça, ben, ça nécessite beaucoup d'argent pour accueillir les touristes. Donc, infrastructure en termes de parking, en termes de poubelles, en termes de toilettes sèches. Et actuellement, le Verdon est en train de saturer, quoi. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis qu'à terme, il est probable qu'effectivement, ben, le touriste mette la main à la pâte. Parce que je pense que les collectivités ne parviendront plus à boucler le budget. Voilà. Le Verdon, on va dire que dans sa partie basse, hein, à la saison d'hiver pour se reposer, la nature à la saison d'hiver pour se reposer, et dans la partie haute, la saison d'été, hein, parce que la partie haute, donc c'est la partie de la Foudalo, c'est la partie des stations, où là, la pression touristique s'exerce principalement sur les mois d'hiver.
Alors, on va donner la parole à Nelly Kars pour les prochains rendez-vous. Ce film documentaire donc va être projeté.
Alors, le film sera projeté évidemment proche du Verdon, mais dans plusieurs départements. L'avant-première va se faire dans le 05, donc à Rousset, à la Maison de l'eau et des énergies. Il faut savoir que c'est aussi chez notre partenaire principal, donc EDF Hydro-Méditerranée. Cette avant-première donc va se faire à 21h et la projection, elle se fera en partenariat avec le cinéma de Pays 04 et les écrans du lac. Donc avec les écrans du lac, il y aura également cette projection dans tout l'été. On aura le 28 juillet à Castellane, le 3 août à Bauduin, le 13 août à Quinçon, le 22 août à Éguines et le 23 août à Sainte-Croix. Il y aura également une autre projection, cette fois-ci qui se fera au cinéma L'Aiguille à la Foudalos. Et là, ce sera le 5 août. Donc cette fois-ci, on ne sera pas avec les écrans du lac, mais au cinéma L'Aiguille. On a été soutenu par EDF Hydro-Méditerranée, mais également par Côté Var, donc la communauté de communes Lac et Gorge du Verdon, qui est également interviewée dans le documentaire. On a, je pense, 7 ou 8 personnes qui sont interviewées dans ce film. Les projections que j'ai annoncées là, c'est pas une liste exhaustive du tout. Donc j'invite les gens finalement à suivre soit sur la page Facebook des Marcheurs de la Terre, les annonces qu'on fait régulièrement, soit sur le site d'Octopus Productions. Alors Octopus, c'est un jeu de mots, donc ça s'écrit P-U-C-E à la fin. C'est important parce que sinon on peut se tromper. Oui, et puis le film, évidemment, sortira prochainement en télé. Donc la première se fera sur France 3 Région, donc d'ici télé et télé 8 Mont-Blanc. D'autres télés arriveront dans les mois et les années qui suivent, car un film comme celui-ci a une durée de vie qui est quand même assez longue. Il y aura par la suite une édition de DVD également, mais bon, pour l'instant, c'est pas pour tout de suite.
Est-ce que ça va encore nous faire peur au niveau de la pollution
ou... Alors, je pense que la peur peut être une bonne chose, parce qu'elle elle peut aider une prise de conscience. On a donné la parole au Verdon, donc évidemment, il va parler de la pollution. Mais pas uniquement. Il s'agit d'un ensemble, en fait, de pratiques qui vient du fait que, par nos modes de vie, on se déconnecte de plus en plus de la nature. Le but étant, à travers ce film, d'essayer de faire aimer vraiment le milieu, de manière à ce que les gens, doucement, doucement, se rapprochent de plus en plus de la nature, malgré leur mode de vie, ce qui est absolument pas une utopie. C'est possible.
Beaucoup de séances, vous en avez parlé, sont prévues et bien sûr, il y a certainement possibilité de vous faire venir dans les communes qui souhaitent découvrir ce documentaire.
Alors oui, c'est tout à fait possible. D'autant plus que bon, les projections avec le cinéma de Pays 04 et les écrans du lac, j'en parlais pas tout à l'heure, mais elles sont gratuites pour le public, c'est aussi important de le dire. Par contre, les communes, évidemment, payent leur participation. Donc il est possible de nous faire venir avec des projections sur grand écran en passant par le cinéma de Pays 04 ou alors simplement avec d'autres types de matériel. On peut tout à fait projeter sur le matériel communal. On peut également travailler dans les écoles. Pour les enfants, on travaille généralement avec des clips beaucoup plus court, donc un format 2 minutes, 2 minutes 30. On dispose de toute une série de manière à les sensibiliser justement sur le Verdon. Donc quand ils sont un peu plus grands, on peut leur passer le 52 minutes, mais des clips courts, ça fait tout à fait l'affaire aussi. Et ça permet d'avoir une bonne dynamique avec les petits. Dans le film, vous allez pouvoir voir qu'il y a pas mal d'images aériennes. Alors une image aérienne, généralement maintenant, ce sont plutôt des drones. Donc nous, on en a utilisé évidemment, donc les nôtres ou ceux d'un prestataire. Il faut savoir que le film a été fait dans le plus parfait respect à la fois de la réglementation, mais également du respect des milieux et de la faune. Les drones sont de plus en plus invasifs et dérangeants pour la faune. On s'en aperçoit pas forcément, surtout quand on n'a pas forcément une culture nature. On se rend pas compte du mal que ça peut faire. Par exemple, le parc nous a relaté des histoires assez tristes. Il y a des suicides de poussins, de vautours. Quand ils voient arriver les drones dans les grandes gorges, dans le Grand Canyon, ils paniquent et sautent du nid. Ce genre de choses, malheureusement, ça se reproduit chaque année, donc de plus en plus. Donc j'en profite d'être à la radio tout simplement pour sensibiliser à ces pratiques. Ce sont des outils qui se démocratisent de plus en plus. On a l'impression d'avoir un grand pouvoir avec un drone. C'est vrai que c'est assez fabuleux de se dire qu'on peut, par extension, voler et ramener de belles images. Mais chaque fois qu'on fait voler un drone, on a un impact considérable. On peut en profiter pour faire un petit focus là-dessus et sensibiliser un maximum de monde à faire attention à ce genre de pratique, tout simplement. Donc il faut avoir conscience à la fois de la réglementation, qui est quand même de plus en plus stricte, et je pense que ça s'avère vraiment nécessaire, et également de l'impact qu'on peut avoir sur le milieu avec son propre drone. Donc en voyant ce film, c'est un petit peu le risque, c'est que ça peut donner envie finalement aux gens de faire la même chose, prendre leur drone et voler. Mais il faut faire attention au milieu. Donc la faune est vraiment dérangée par les drones, et notamment les oiseaux, surtout quand ils sont en période de nichée.
Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, dans le domaine du drone, il y a des télépilotes professionnels qui, eux, sont avertis des différentes réglementations en vigueur et qui sont censés avoir un regard donc respectueux sur l'environnement. Donc on va dire que c'est pas tant pour ce type d'utilisateur. Par contre, ce sont les drones de loisirs. Et paradoxalement, les drones de loisirs ont une réglementation qui est très très allégée. C'est absolument pas normal. Et les télépilotes de loisirs n'ont pas vraiment, je dirais, le regard naturaliste. Voilà. Donc en fait, je pense que le message de Nelly s'adresse beaucoup plus aux utilisateurs de drones de loisirs qu'aux professionnels.
Il faut un brevet, c'est ça, un brevet de pilote.
Alors oui, pour utiliser des images aériennes, donc faites avec un drone à des fins commerciales, enfin autre que le loisir. Il faut non seulement passer un brevet, mais un brevet qui se mérite quand même, c'est difficile. Il y a une partie théorique et une partie pratique. Et une fois que le pilote de drone se retrouve également exploitant, quand il est exploitant, il gère ses vols un petit peu comme une compagnie aérienne. Donc c'est extrêmement rigoureux, tous les vols sont notifiés, enregistrés. Il n'y a pas de place, on va dire, à l'inconnu, au laisser-aller ou à l'incertitude. Tout doit être parfaitement maîtrisé, ce qui n'est pas évident parce qu'il n'y a pas que le drone en tant qu'outil qui peut avoir cette défaillance. Il y a le milieu, donc les conditions météo, le public qui peut être là, donc il faut faire attention de ne pas survoler des gens, ce genre de choses. C'est quelque chose qui est extrêmement réglementé. Donc pour utiliser des images aériennes à des fins autres que le loisir, il faut effectivement un brevet.